La gare Roquebrune Cap Martin est nichée à flanc de colline. En sortant du train, on est au milieu de cactus et d'agaves qui sortent des grillages comme des langues. C'est une flore quasi tropicale. J'avais le souvenir que la carte indiquait la villa E1027 à l'abri de la baie mais côté Cap Martin. Je me suis donc engagée sur la promenade, le Corbusier, qui longe la voie ferrée. La végétation filtrait la lumière. Le sol était vert clair avec des zones plus foncées que faisaient briller des filets d'eau provenant de quelques sources. Je ne voyais pas la mer, pas même les rochers en contrebas. C'est à peine si je comprenais où le chemin me conduisait. Puis, soudain, sur ma droite, il y eut une large trouée. Un point de vue très dégagé sur une plage de petits galets, avec deux transats vides et une femme sous un parasol.
Cet épisode est un voyage. Un voyage sur la Côte d'Azur. Un voyage qui commence en gare de Roquebrune-Cap-Martin. Imaginez au-dessus de vous des montagnes qui plongent vers la mer en contrebas. Nous sommes dans un décor unique. Nous sommes sur un chemin, à la recherche d'un transat, à la recherche d'une maison presque centenaire et de son architecte et designeuse, Aileen Gray. Un podcast, une œuvre, Art et Paresse, Aileen Gray, Transat, 1926-1929. Elle a travaillé l'art du lac, le tissage de tapis, la conception de mobilier et d'environnement intérieur, l'architecture, la photographie et la peinture. Son nom a pourtant disparu de l'histoire de l'architecture moderne. Effacé, oublié, retrouvé, le travail révolutionnaire d'Aileen Gray sera célébré pour sa modernité et sa liberté quelques années avant son décès en 1976, à l'âge de 98 ans. Elle lègue une œuvre faite de paravents de lac, des tapis, des divans, des tables amovibles, roulantes, pliantes, de toutes les tailles. Elle lègue aussi des bâtiments, dont certains sont devenus des classiques de l'architecture moderne. Elle lègue surtout une certaine idée de ce que construire signifie, bâtir pour le corps et la vraie vie. Dans cet épisode, il sera donc question de tout cela, de ce qu'être une femme architecte dans les années 20 signifie, de l'histoire de E1027 et de ce fameux transat. Beaucoup d'adjectifs peuvent qualifier Aileen Gray. Sans ordre précis, une femme, indépendante, solitaire, discrète, artiste, douée, bisexuelle, travailleuse, altruiste, colérique, bourgeoise.
Aileen Gray est une designer irlandaise qui a commencé son parcours comme étudiante en beaux-arts et puis qui a ensuite commencé à faire des meubles et puis du meuble au bâtiment. Qui a, donc, est devenue architecte sur le tas, peut-être, on peut dire. Et donc, qui a construit quelques bâtiments.
Charlotte Malterbart est architecte et urbaniste. Elle enseigne à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne et à Harvard. En 2019, elle publie avec la dessinatrice Zosia Dirjoska un roman graphique sur la vie d'Aileen Gray. Elle est l'invitée de cet épisode. Aileen Gray débute son travail par l'apprentissage de la technique du lac à partir de 1905, puis s'installe à Paris en 1907. Elle réalise des paravents, notamment, et se fait remarquer pour la qualité de son travail et de ses meubles. À partir de là, débute sa réflexion sur l'aménagement des pièces, qui va constituer une partie de son travail des années 10.
Elle a commencé à réfléchir à l'espace de manière totale, je pense. C'est-à-dire pas juste le meuble comme un objet, mais ensuite le meuble dans une composition. Changer d'échelle, c'est-à-dire réfléchir à un objet, non pas comme l'objet seul, mais comme faisant partie d'un tout. Alors, la profession de décorateur ou de décoratrice d'intérieur, c'est pas bien vu. Enfin, c'est ornemental, quoi. C'est pas de l'architecture. Elle a aussi fait des tapis en collaboration avec une amie. Et donc, du tapis, sans doute, on est passé à une compréhension spatiale de la composition. Je pense qu'à l'époque, il y avait déjà une certaine... que c'était accepté pour certaines femmes, sans doute à la pointe du design, etc., de dessiner, de faire du textile. Enfin, le textile, de toute façon, a une connotation genrée. Le tapis, le textile, c'est quand même un matériau... Enfin, ce sont des matériaux qui sont genrés. Donc, il y a une facilité, sans doute, à réaliser des tapis ou des tentures, ou du textile, du dessin textile. Le glissement vers le meuble, je pense, est plus radical pour l'époque. C'est-à-dire que je ne pense pas que ça soit quelque chose de très courant. Puis après, en fait, tout ce qui touche à l'aménagement ménager, il y a eu peut-être à une certaine époque, enfin, en Allemagne, il y avait Margaret Schutzelowski qui s'intéressait à l'agencement des cuisines, par exemple. Donc il y a eu, je dirais ensuite, une mouvance, en tout cas, qui voyait des femmes designers s'intéresser à la domesticité. Donc ça reste très genré, c'est-à-dire qu'on reste dans une idée des femmes qui dessinent des intérieurs. Ou en tout cas qui dessinent des objets qui vont dans des intérieurs ou des textiles qui vont dans des intérieurs. Et Gray, ce qu'elle fait, ce qui est quand même assez révolutionnaire, elle ouvre un magasin. De design, donc d'objets de design, une espèce de magasin concept store avant l'heure, qu'elle nomme Jean Désert, donc qui est où elle utilise en fait le patronyme masculin pour se protéger du sexisme ambiant et du fait que ça soit finalement assez peu accepté de faire ce qu'elle fait. Donc c'est d'une certaine manière accepté, mais d'une autre manière assez radical en fait.
Sa boutique, Jean Désert, est installée à Paris, au 217 rue Saint-Honoré, à deux pas des Tuileries. Aline Gray l'inaugure en 1922, entourée d'autres femmes, membres de cercles lesbiens, parfois ses amantes, surtout des femmes indépendantes qui vont constituer une partie de la clientèle de sa boutique.
Alors elle l'ouvre en partenariat avec une amante de l'époque, mais économiquement c'est pas viable. Et donc ça survit pas très longtemps, quelques années à peine. Gray, à l'époque, elle est très active dans le milieu lesbien de Paris. Elle a beaucoup d'amis, elle traîne un peu avec Nathalie Barnet, elle va au Temple de l'Amitié, qui est un salon littéraire, culturel, un cercle lesbien culturel. Donc c'est vrai qu'elle est dans ce... Elle baigne un peu dans ce milieu, elle fréquente ce milieu, effectivement, elle a donc une amie. À ce moment-là, elle est en couple avec Damia, qui est une chanteuse très connue de cette époque-là, qui a une panthère comme animal domestique.
Et c'est à cette période qu'elle commence à s'intéresser à l'architecture.
Elle rencontre Jean Badovici, qui est un architecte roumain qui habite à Paris, très engagé dans la critique d'architecture, enfin, qui lui-même aspire sans doute à être designer, mais qui pratique assez peu, et qui a des revues, enfin, qui est fondateur d'une revue d'architecture, et qui est donc très introduit dans le milieu des architectes parisiens. Ils deviennent amants, elle baigne un petit peu plus peut-être dans le milieu architectural et en fait d'une certaine manière, peut-être très naturellement, émerge la volonté de dessiner un bâtiment, de construire en tout cas.
J'ai rejoint la plage. De là, je me suis dit que je verrais mieux. En effet, à mesure que je m'éloignais du flanc de la colline, en rejoignant par une sorte de rampe en pente douce la plage du Buse, des murs, plus des angles de la villa, m'apparaissaient de mieux en mieux. Je marchais et me retournais sans cesse, laissant opérer une sorte de magie. La révélation progressive de ce pourquoi j'étais venue. La récompense. La villa visible en entier. Blanche, précise. Sur la plage, il y avait toujours aussi peu de monde. La même femme sous son parasol, deux autres femmes allongées sur des transats prenaient le soleil.
On est donc dans l'émergence de l'architecture moderne. C'est quelque chose qui la passionne, donc elle s'intéresse à la réflexion sur les machines à habiter, l'idée qu'on puisse dessiner quelque chose, un habitat un habitat assez neutre finalement, qui est assez à l'opposé de sa sensibilité, disons.
Charlotte Malterbart parle de machine à habiter. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, la machine à habiter, c'est un concept qui a été articulé par l'architecte franco-suisse Le Corbusier, donc la star de l'architecture moderne, et qui part du principe que on dessine un espace dans lequel l'humain va venir vivre, donc faire établir ses fonctions vitales. Il y a une certaine idée de neutralité, donc il n'y a pas d'ornement, enfin, c'est très minime. Enfin, c'est une espèce d'idée de l'habitat minimum, quoi. Donc on est dans une... C'est pour ça que ça s'appelle machine à habiter, parce qu'il y a un côté un peu... Enfin, il y a un côté technique, technologique, donc l'idée que l'architecture est ce réceptacle fonctionnel pour le corps, et le corps vient s'y glisser et y vivre. Et donc ça, c'est un concept qui va marquer l'architecture moderne de manière très durable, en fait, puisque même aujourd'hui, on peut sans doute en voir les traces dans ce qui se construit. Et donc, c'est un concept auquel Gray s'intéresse, mais qu'elle embrasse pas, c'est-à-dire qu'elle est assez critique, en fait, de cette idée. Elle est beaucoup plus dans la sensualité des espaces. Elle pense qu'il faut dessiner aussi certains moments, qu'on peut avoir une réflexion sur les matériaux, etc., etc. Une réflexion sur comment est-ce qu'on vit dans une maison et pas la maison comme cette boîte où on vient vivre sans être forcément accueilli. Et ensuite vient ce désir de construire. Et bon, elle fréquentait pas mal Saint-Tropez déjà, d'une certaine manière sans doute liée à son contact dans le milieu mondain, etc. Donc Saint-Tropez était déjà un petit peu à la mode. Et donc elle était très sensible à la beauté des sites autour de la Côte d'Azur. Et donc elle trouve un site pour construire. Donc elle dessine ce projet et elle se lance en fait dans la construction de ce projet qu'elle finance entièrement. Hein. Elle achète le terrain et elle finance la construction du bâtiment et elle le dessine. Donc c'est un peu un projet total. Et en fait l'idée c'est de le dessiner pour Badovici et pour elle. Donc c'est un peu un projet un peu romantique finalement, peut-être.
Le projet et sa construction durent 3 ans, jusqu'en 1929. Eileen Gray va étudier en détail le terrain, le sens des vents, la trajectoire du soleil, pour déterminer l'emplacement précis et l'orientation idéale de la maison. Le bâtiment est nommé E1027, E pour Eileen, puis des numéros qui correspondent à l'ordre des lettres dans l'alphabet. 10 pour le J de Jean, 2 pour le B de Badovici et 7 pour le G de Gray.
La villa E1027 m'apparaissait comme un navire blanc, mis en cale à flanc de colline. J'ai longuement fixé ses lignes, ses ouvertures, l'équilibre du tout, les détails, les jalousies de bois, le balcon coursif comme un bastingage tendu de toile, l'étrange cheminée de paquebot dépassant du toit. Le ciel était dégagé. Il faisait bon maintenant. Je me suis levée, j'ai retroussé ma robe au-dessus des genoux, comme les femmes d'autrefois s'apprêtant au bain, et j'ai avancé dans l'eau, sans quitter la villa des yeux.
La maison, elle est pensée pour cette idée de liberté de l'espace, c'est-à-dire qu'on rentre, et on n'est pas immédiatement frappé par la vue, puisqu'il y a un petit couloir dessiné, où elle a marqué d'ailleurs interdit de rire, donc qui est une référence, c'est un peu une blague qu'elle avait avec Badovici.
Partout dans la maison, des mots sont peints. Ils sont informatifs.
Chapeau, oreiller, pyjama, garde-manger.
Ou poétique.
Entrez lentement, beau temps, sens interdit, invitation au voyage.
Et puis... on arrive dans ce grand espace et là, on a la vue, la Méditerranée en plein. La manière dont le bâtiment était agencé, ce grand espace, c'est aussi une chambre. C'est-à-dire qu'il y a un lit, il y a une petite salle de bain qui est cachée juste dans un recoin derrière le lit. Et il y a une autre chambre sur le côté, mais qui est aussi très ouverte finalement. Donc on est quand même dans un espace vraiment libre.
Et complètement tourné vers la vue.
La terrasse devant la grande salle continue cette dernière et la prolonge quand les panneaux des fenêtres sont repliés contre les piliers. On a remplacé la balustrade pleine par une balustrade en toile facilement amovible qui permet l'hiver de se réchauffer les jambes à la chaleur du soleil. La marquise en toile est faite de 4 pièces indépendantes. C'est une cour privilégiée où l'on peut, suivant l'heure et suivant les humeurs du temps, s'abriter ou s'étendre en plein soleil. Quand la mer est mauvaise et l'horizon marin triste, il suffit de fermer la grande baie du sud, de tirer le rideau, puis d'ouvrir au nord la petite baie qui donne sur le jardin de citronniers et sur le vieux village, pour trouver un nouvel horizon tout différent, où les masses de verdure remplacent les étendues bleues et grises.
Cette villa rassemble des éléments caractéristiques de l'architecture moderne et ses 5 préceptes.
Alors l'architecture moderne, c'est un peu un dogme puisqu'il y a 5 principes. Il y a les pilotis, donc les bâtiments sont surélevés. L'exemple type, par exemple, c'est la villa radieuse construite par Corbusier à Marseille. Ensuite, le toit terrasse, donc l'idée qu'on a une toiture plate, ce qui n'est pas génial pour tout ce qui est élimination des eaux, etc. etc. Donc l'invention de l'infiltration. Et puis la fenêtre en bandeau, donc à l'horizontale, donc l'idée qu'on n'est pas dans des fenêtres verticales, dans un format à l'horizontale qui est dédié en fait à l'idée de d'ouvrir les bâtiments, donc d'avoir un apport de lumière. Ensuite, on a ce qu'on appelle le plan libre, donc en fait l'idée qu'on n'est pas dans des habitats avec des séparations de pièces. Donc on n'est pas dans le T3 classique où on a salle de bain, cuisine, chambre 1, chambre 2, chambre 3, corridor. Le loft, par exemple, c'est une idée du plan libre assez proche de ça. Et donc on voit bien d'ailleurs le lien avec l'architecture industrielle, en fait, qui est une très grande inspiration des principes de l'architecture moderne. Donc le fait qu'on a des grands halls, par exemple, c'est lié à la fabrication industrielle, au fait qu'on va pas avoir, on a besoin de cet espace ouvert. Donc. Et ensuite, ce qu'on appelle la façade libre, c'est-à-dire l'idée qu'on peut détacher justement le plan de la manière dont la façade est organisée, que les fenêtres sont pas forcément alignées avec certaines choses, donc une certaine liberté de la composition du bâtiment. Donc Gray, elle reprend ces principes, sauf que, par exemple, on est en pente, donc une partie uniquement du bâtiment est surélevée. Il y a une partie qui est ancrée dans le sol. Le toit terrasse, donc effectivement, il y a un toit terrasse avec un accès au toit terrasse. Il y a un petit escalier en colimaçon du toit terrasse qui est très confidentiel. Et le toit terrasse n'est pas du tout aménagé. Donc, de nouveau, on est dans un peu dans une performance de l'architecture moderne, mais pas forcément dans son usage. La fenêtre en bandeau, alors ça, on retrouve très bien, puisqu'il y a une ouverture complète sur la mer. On est quand même dans un site incroyable où on est face à la baie, la Méditerranée, vraiment dans la maison. Donc c'est très, par contre, ça, c'est clairement respecté. Le plan libre aussi, on est quand même dans une organisation assez fluide. La façade libre, d'une certaine manière, je dirais aussi, c'est assez respecté. C'est-à-dire qu'il y a une composition de la façade qui n'est pas forcément... qui est très libre par rapport à ça. Donc, elle respecte certains des 5 points de l'architecture moderne, mais elle se libère de ce dogme en faisant des pas de côté.
Pour sa maison, Aileen Gray va penser l'intégralité de l'aménagement intérieur sur mesure. Une coiffeuse paravent, le cabinet à tiroirs pivotants, la table élément et, nous le trouvons enfin, un transat.
Aileen Gray, fauteuil transat, 1926-1929.
Catherine Lascaux, conférencière au Centre Pompidou.
Le fauteuil transat, 79 sur 55 sur 98 cm, est dit de grand confort, car son assise basse, avec un dossier très incliné vers l'arrière, induit une posture de détente qui produit une sensation de relâchement propice à la sieste. En le voyant, l'image qui surgit est celle du hamac. Cependant, nous sommes loin de toute mollesse. Sa structure, en sycomore verni, combine les perpendiculaires et les obliques. Pieds et accoudoirs sont solidaires et maintenus par des rivets métalliques. Les pieds à l'arrière reposent sur une traverse horizontale qu'un prolongement oblique solidarise avec les pieds avant. Un support vertical supplémentaire à l'arrière est muni d'une charnière qui permet l'inclinaison du dossier. Les piétements sont en acier nickelé et les rivets, les charnières métalliques s'affirment. Sur cette structure rigide, l'assise matelassée dessine une courbe en cuir synthétique noir. Le même matériau est utilisé pour le dossier indépendant inclinable. Ce fauteuil concilie les contraires, à la fois géométrique, évidé, mécaniste, et en même temps souple, organique, réceptif au corps humain. Il allie le naturel du bois, l'artificiel du cuir synthétique, le métal froid, le travail matelassé du tapissier, les gestes de l'artisan et les produits de l'industrie. L'ensemble évoque le camping et la salle à manger moderne, le dedans et le dehors. Comme le hamac, sa fonction hésite entre celle du lit et celle du siège. Sa forme emboîtante découle d'une structure qui cadre, cerne le corps qu'elle canalise et oriente vers une posture d'abandon, de rêverie, relayée par l'assise qui prend en charge l'ensemble du corps. Dans le contexte des années folles, le transat, plus qu'un meuble, est un manifeste de modernisme. Eileen Gray, architecte et designer, née en Irlande en 1878, a participé à la fondation de l'Union des artistes modernes. Très éloignée du style art déco, elle se relie par certains aspects à un mouvement fondé en 1903 à Vienne par Joseph Hoffmann et Koloman Moser. Ces Wiener Werkstätte, ou ateliers viennois, avaient pour but de mettre l'esthétique de la modernité à la portée de chacun, à concilier l'artisanat et l'art. C'est dans cette continuité que s'inscrira le Bauhaus à partir de 1919. Architecture, arts appliqués, meubles, textiles sont conçus et produits à la fois par des artistes et des artisans, dans la logique du matériau et en excluant l'ornement inutile. Cependant, ces productions restent coûteuses et réservées à une élite. Le transat n'a finalement pas été produit en série. Sur les 12 unités fabriquées, il n'en reste que 6.
Il offre une situation pratiquement allongée pour le corps, c'est-à-dire qu'on est dans une assise très basse, peut-être moins industrielle puisqu'il y a une utilisation du bois et du cuir, donc on est moins dans un esprit camping direct, mais c'est un meuble très léger, donc qu'on peut bouger effectivement, qu'on peut tirer de l'intérieur à l'extérieur, le mettre sur la terrasse, etc. Et qui est sans doute une référence à ces fauteuils qu'on trouve sur les bateaux, sur les ponts des bateaux, qui peuvent être pliés, dépliés. En l'occurrence, il ne se plie pas, mais il est très léger et il a vraiment cette position inclinée, c'est-à-dire qu'on s'assoit, on est très près du sol et on a une assise, pas horizontale, mais on est quand même très, très près du sol, très bas, très relax, quoi.
Les 12 exemplaires du Transat seront tous différents dans leur couleur, noir, céladon, camel, et leurs matériaux. Ce sont des prototypes. Eileen Gray crée des espaces où architecture et meubles ont été conçus dans une même intention. Certains meubles, inamovibles, structurent l'espace, et d'autres sont destinés au mouvement, légers et maniables.
Elle réfléchit à cette maison comme un camping. Et donc, il y a une certaine idée romantique du camping, bien entendu, mais l'idée du mobilier léger qui s'inspire de l'industrie, de nouveau, donc aluminium, tube, qui est assez à la mode, en fait, de nouveau, cette relation avec l'industrie. Et donc, l'idée qu'on peut bouger son mobilier, qu'on peut le plier, qu'on peut le mettre de côté, qu'on peut faire autre chose avec... L'espace qui est très opposé à l'habitat bourgeois où on a des gros meubles lourds, des tables en chêne massif qu'on ne va pas pouvoir changer de place. Enfin, une certaine idée figée de l'habitat, donc c'est vraiment à l'opposé de ça.
Des fauteuils, des sièges, des paravents, des tapis de haute laine, la couleur chaude des cuirs, l'éclat mat de l'étain, la profondeur des coussins contribuent à créer l'intimité d'une atmosphère, où une carte marine éclairait la nuit, mais une note ingénieuse évoquant les voyages lointains et provoquant la songerie. Les tapis même, par leur couleur et leur forme, font penser aux horizons marins.
Il y a d'autres éléments qui ont été dessinés dans la maison. Par exemple, un très beau miroir de cabinet de toilette qui s'appelle Satellite, qui est un miroir... c'est quasiment un objet d'art, en fait, qui est pensé un peu comme un système solaire avec des éléments qui sont en suspension, liés les uns aux autres avec une certaine distance. Donc un meuble révolutionnaire, finalement. Des meubles très pensés, par exemple un cabinet, dans le cabinet de toilette, des petits tiroirs où on va ranger toutes ces petites affaires, enfin quelque chose de très d'assez réfléchi, poussé dans la logique, donc de nouveau très loin de cette idée de la machine à habiter où on est dans un espace générique où on va se glisser, mais au contraire un habitat pensé avec des détails, des attentions, une réflexion sur la manière dont le corps se positionne. Donc de nouveau, enfin l'inverse d'une machine, disons.
Pour donner une plus grande intimité au jardin, on a fermé le côté libre, trop exposé au vent, par un petit réduit en tôle ondulée où le jardinier peut ranger ses outils. On a évité le miroir d'eau, qui aurait attiré les moustiques, mais on a disposé une sorte de divan en dalle inclinée pour les bains de soleil, une cuve pour les bains de sable, une table à miroir pour les cocktails et un banc de chaque côté pour les causeries. Un petit escalier permet de descendre directement à la mer pour le bain, la pêche ou le canotage. Ainsi, cette toute petite maison concentre dans un espace réduit tout ce qui peut être utile au confort, aider à la joie de vivre. Nulle part on a cherché une ligne ou une forme pour elle-même. Partout on a pensé à l'homme, à sa sensibilité, à ses besoins.
Ça parle aussi d'une certaine manière de vivre qui n'est pas du tout la manière dont la plupart des gens vivaient à l'époque. C'est-à-dire qu'on parle de gens qui ont le temps, l'argent, la possibilité d'avoir ce genre d'espace et d'en profiter. Alors, c'est une maison qui est pensée pour la villégiature, pour recevoir des amis qui ont la même manière d'envisager la vie que vous, qui acceptent d'être dans des pièces qui ne ferment pas, peut-être. Un endroit où on reçoit, où on a des discussions intellectuelles, mais où on va se baigner. Enfin, donc, il y a un rapport au temps, et un rapport au corps aussi, le fait qu'il y a un accès direct à la mer, c'est-à-dire qu'on est déjà dans... une certaine conception de la nature et du corps qui est en train de prendre de l'importance. Donc l'idée que la nature est bonne pour le corps, etc. etc. Donc une notion du temps libre, disons, qui est là. Donc plus qu'une maison pour penser et être seul, un refuge, c'est plutôt une maison pour avoir du temps libre.
Une maison pour recevoir, une maison pour se reposer, une maison pour paresser.
Alors, la paresse comme idée, c'est pas quelque chose que je j'attacherais automatiquement à Gré elle-même. Je pense que c'est quelqu'un qui n'était pas du tout paresseux, qui était complètement obsédé par son travail. Après, la maison E1027, c'est quand même une maison, c'est un lieu de villégiature. Donc, il y a un élément de paresse. Il y a quand même l'idée qu'on peut passer sa journée entre le salon, la terrasse, le jardin, le solarium, aller se baigner, retourner par magie, avoir une table prête pour manger. Et donc, après, je pense qu'il y a une question. La paresse, je voudrais l'attacher à l'idée du privilège, en fait. C'est-à-dire, qui peut se permettre d'être paresseux ? Dans cette discussion sur Hélène Gray, il y a cet élément de classe, donc le fait que c'est quelqu'un qui a été servi toute sa vie, donc il y a eu une domestique qui a été sa domestique, donc Louise qui a été sa domestique très jeune et qui l'a suivie quasiment jusqu'à la fin de sa vie. Et ça fait un peu partie d'une réflexion sur qui on efface. Alors Hélène Gray, elle a été effacée à certains moments. Et puis, on efface aussi qui construit les maisons, qui les entretient. Et donc, dans cette idée de paresse, il y a toujours la notion de privilège qui a le privilège de prendre le temps de ne pas faire ou de rester dans ce transat, par exemple, de lire le journal, de fumer, de regarder dehors, sans devoir se préoccuper de ranger ou de faire à manger ou de s'occuper d'enfants. Par exemple, donc Grace, c'était quelqu'un qui était très indépendant. Elle n'a pas eu d'enfants. Elle était en couple occasionnellement. Donc, c'est quand même un caractère très, comment dirais-je, assez solitaire. Mais paradoxalement, qu'il y avait donc une domestique. Donc, voilà. Il y a une idée de paresse qui peut être liée au privilège.
Aline Gray va réaliser d'autres fauteuils, d'autres transats ou chaises d'intérieur et d'extérieur dans ses tandems architecture et design. Pour la villa Tempe à Paya, dans les années 30, sur les hauteurs de Menton, avec ses meubles aux fonctions multiples comme un siège escabeau porte-serviette ou un meuble mobile pour pantalon, car elle en portait souvent. Ou pour la villa Loupérou, dans les années 50 à Saint-Tropez. Quant à E1027
a une histoire tragique puisque alors il y a plusieurs drames qui se déroulent autour de cette maison. Alors Le Corbusier vient visiter cette maison quand elle n'y est pas. Il lui envoie une petite lettre en lui disant que ce bâtiment est incroyable, qu'il est admiratif et qu'il aimerait bien l'y rencontrer une autre fois quand elle y est. Il est invité par Badovici pour y séjourner. Il y séjourne d'ailleurs plusieurs fois. Et à un moment, il y séjourne seul et il décide d'y peindre. Alors, moi, quand j'invite des amis chez moi, je préfère qu'ils ne prennent pas la liberté de dessiner des fresques sur les murs. C'est donc ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il est inspiré par les murs blancs de la maison. Bon, Le Corbusier, c'est un peintre raté, en fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a voulu être un artiste à un moment. Et donc, on voit ce désir de peindre, cet intérêt pour le mur comme canevas pour peindre, etc. Donc, il résiste pas. Et il peint 5 fresques qui sont donc considérées par Gray comme une insulte, en fait. Puisqu'on est quand même dans un habitat blanc, avec cette volonté de laisser finalement l'espace extérieur amener la couleur, puisqu'on est quand même dans un site incroyable avec végétation, lumière, Méditerranée. Et Corbusier, il peint des figures féminines, sexualisées, qu'il a ramenées de ses visites dans les bordels d'Alger. Donc il peint des femmes nues, avec des aplats de couleurs primaires, donc rouge, jaune. Donc une violence, en fait, dans ce geste. Il y a d'ailleurs des photos de lui nu en train de peindre. Enfin, il y a un aspect quand même très sexuel dans cette réalisation, ce moment de peinture. Gray, furieuse, n'y remet plus les pieds. Corbusier se dispute avec Badovici, qui au début trouve ça très bien et honoré que quand le grand maître est venu mettre sa patte dans sa maison, puisque lui il considère que c'est sa maison, puisqu'en fait Gray et Badovici à un moment ne sont plus en relation amoureuse, et Badovici reste dans la maison et il séjourne à plusieurs reprises. Au début il est flatté et puis en fait il s'aperçoit qu'à un moment c'était quand même pas une super bonne idée, et donc il se dispute avec Le Corbusier pour ensuite d'autres raisons variées. Bref, donc ça c'est le drame, c'est le vrai drame de la maison, c'est-à-dire le fait que la maison est dénaturée par ce geste, et puis il y a un côté dramatique qui est lié au fait que, comme il y a eu un reportage photo sur les fresques du Corbusier, la maison est attribuée, donc ça devient une espèce de rumeur puis qui est ensuite pas démentie, que c'est une œuvre du Corbusier. Donc pendant très longtemps, E1027 est considéré comme une espèce d'œuvre non signée du Corbusier. Puis après, il y a d'autres, plein de petits drames qui viennent se jouer autour de ça. Badovici se fâche avec Corbusier. Corbusier, obsédé par cette maison et ce site, décide de faire construire ce qu'il vend comme étant son cabanon et cette unité d'habitat unique, qui est en fait une extension d'un restaurant et d'un hôtel existant, donc l'Étoile de Mer. C'est-à-dire que la manière dont c'est représenté dans les plans, c'est toujours cette pièce, enfin, comme un bâtiment isolé, alors qu'en fait, c'est une extension et qu'il y a un accès direct à la cuisine de l'hôtel qui lui permet donc de se nourrir. Ensuite, il y a un peu une obsession pour cette maison par Corbusier, puisque, et ça, c'est quelque chose qui est très bien décrit par Béatrice Colomina dans son article qu'elle a écrit dans les années 90, on va dire, qui est donc une analyse de cette obsession par Le Corbusier autour de la maison. Donc, il fait construire, enfin, il a un client qui construit des unités de camping autour de la maison. Donc, d'une certaine manière, il encercle la maison de ses œuvres. Et il décède en face de la maison en ayant en fait un arrêt cardiaque dans l'eau. Et donc, il meurt sur cette plage devant E1027.
M'entendrez-vous cette fois bercer dans la lueur nos illusions? Serez-vous parmi moi au sein du cirque de consolation?
Voilà pourquoi le nom du Corbusier reste, aujourd'hui encore, associé avec la réalisation d'Aileen Gray, à travers le temps et l'histoire de l'architecture, comme le symbole d'une appropriation du travail de cet architecte.
Il y a un acte d'appropriation. Après, est-ce que c'est volontaire, conscient? Je pense qu'il y a une attraction au site évidente, qui est un site incroyable. Et puis, après, il y a un acte d'omission, c'est-à-dire que c'est plutôt que, comme les peintures, enfin les fresques ont été documentées dans la maison et que par extension la maison a été attribuée au Corbusier, il n'y a pas eu de correctif, mais lui-même, il n'a jamais dit que c'était lui qui avait dessiné cette maison, bien que ça fait un peu partie du narratif tour de l'icône, comme quoi, en fait, ce serait lui qui, ceci, cela. Gray était quelqu'un de pas nostalgique du tout, c'est-à-dire qu'elle avait construit cette maison, elle avait vécu cette histoire, et puis elle passait à autre chose. Donc je pense qu'il y a eu aussi une manière de concevoir la vie, pas du tout comme quelque chose de linéaire, c'est-à-dire qu'on peut se réinventer à chaque fois. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle fait dans tout ce qu'elle produit, puisque c'est pas non plus linéaire dans ce qu'elle dessine. C'est-à-dire que Tempe Apaya, donc qui est son deuxième ou sa troisième réalisation, qui est une maison toujours sur la Côte d'Azur, est une maison qui est une réhabilitation. Elle utilise certains éléments du langage qu'elle avait déjà exploré dans E1027, mais on est aussi dans une réflexion sur d'autres choses. Ça a dû l'agacer de pas être reconnue, mais c'est quelqu'un qui a navigué de manière très prosaïque, peut-être le sexisme ambiant, et donc elle a juste continué à faire ce qui l'intéressait, et elle a jeté beaucoup de ses archives, pas forcément parce qu'elle pensait que c'était pas de valeur, mais parce qu'elle voulait pas s'alourdir de ce passé, alors que donc on a très peu d'archives d'Hélène Gray. Il y a plus ses meubles et son œuvre qui restent que, par exemple, tous ses croquis, sa correspondance, etc. Il y a très très peu de matériaux, enfin il reste pas grand chose. Et puis, il y a eu un moment, une espèce de résurgence d'intérêt pour son œuvre à la fin de sa vie. Donc, il y a Peter Adams qui a écrit une biographie. Il y a eu une grande exposition à Paris. Il y a eu une reconnaissance de son œuvre qu'elle a vécue. Donc, elle a apprécié tout en disant « Mais ça, c'est des vieux trucs que j'ai fait. » Voilà, c'est quelqu'un qui, à 97 ans, disait « Mais tout ça, c'est passé. Moi, je fais autre chose maintenant. » Qui n'était pas dans l'amertume du tout, d'ailleurs. Qui était quelqu'un qui avait fait... considérer qu'elle avait fait tout ce qu'elle voulait, plus ou moins, dans sa vie, et qui avait eu des limitations, mais que finalement, elle avait fait ce qu'elle voulait.
Aujourd'hui, après de longues années d'abandon, E1027 se visite à nouveau. des panneaux blancs, amovibles, ont été ajoutés sur les fresques du Corbusier au moment de la restauration du lieu. Les murs blancs sont de retour, l'esprit du lieu avec eux. 100 ans après sa création, au milieu d'une nature sauvage, la villa fait toujours face au vent. Des immeubles se sont ajoutés dans le décor de carte postale. La terrasse reste une invitation à tirer un transat et paresser face à la Méditerranée. Merci à Charlotte Malterbart d'avoir raconté l'histoire d'Alin Gray. Les textes lus dans l'épisode sont extraits du livre de Célia Houdard, French Riviera, promenade autour de la villa E1027, et du texte de Alin Gray et Jean Badovici, publié dans le numéro de 1929 de L'architecture vivante, Villa E1027, maison en bord de mer. Merci à Clémence Boisset d'avoir lu ces textes tout au long de l'épisode. Un podcast, une œuvre est un podcast du Centre Pompidou. Cet épisode a été écrit et réalisé par Camille Regache, produit par Clara Gouraud, mixé par Yvan Gariel, avec les musiques de Nawal Ben Krayem et Nassim Kouti.